affrontera les Diables Rouges. Il y aura également la Coupe Memorial sur place demain, ainsi que Jonathan Marchessault, ex-rempart et également champion de la Coupe Stanley avec les Golden Knights. Vous voulez pas manquer ça. Et dans la Ligue nord-américaine, un match ce soir 20h pour votre national face aux Éperviers de Sorel-Tracy. Go, go, go!
Pour plus de sport, c'est BPM Sport.
BPM Sport.
100.9.
Présenté par Chapeau Ben, votre magasin de liquidation à Québec, Saint-Georges et Lévis. Pour de la nourriture, des vêtements et des nouveautés chaque semaine, de 20 à 60% moins cher, chapeauben.com.
Choix.
Choix.
98.
98.
1.
Choix.
Choix. Radio X. À Québec, c'est Radio X.
Choix. Radio X.
Faites-vous votre propre opinion.
We're going against the wind. The wind's 120 knots to the west.
Radio X-Files.
Avec Christian Page.
Oh my God.
Radio X.
On appelle théorie. Moi, j'ai jamais inventé de théorie de complot. Mais donc, toi, t'es pas trop d'accord avec les platistes, là. C'est une autre mouvance.
Oui, il y a des choses qui, quand ils se laissent accuser de, on leur dit, les platistes, ils pensent que la Terre est plate, que c'est un disque qui tourne. Je vois pas pourquoi ils se laissent accuser de cette façon-là. Je trouve ça ridicule. Moi, personnellement, je pense que la zone où l'on vit, où vit l'homme adamique, les êtres humains.
Ah, c'est quoi l'homme adamique, tiens? Et après, on parle de marcher sur la lune. L'homme adamique,
c'est celui qui s'oppose à l'homme de parthénogenèse.
Oh putain. Il y a des nouveaux mots, là. Il y a faut emmagasiner.
Ah, mais le complotisme, c'est une affaire sérieuse.
Explique-moi si tu veux bien. Explique-nous la différence entre les deux, d'après toi.
L'homme adamique est issu d'une source initiale. C'est la création divine.
Donc toi, t'es quoi ?
Je suis un humain, un homme adamique.
T'es adamique ?
Oui.
D'accord. Donc ça, c'est les humains, on va dire, classiques.
Voilà.
C'est les reptiliens aussi.
Mais parmi eux, il y a des gens qui sont infiltrés par des civilisations exogénèses.
Alors ça veut dire quoi, exogénèse ?
Qui vivent en dehors de notre monde, au-delà du mur de glace.
Des extraterrestres, quoi.
Ou des ultra-terrestres. Je vais te dire quelque chose, Guillaume. Alors là, je pense que tu vas pousser le plus grand rire de ta vie. La partie qui n'est pas notre monde, c'est-à-dire notre terre, là où vivent les hommes adamiques. Qu'est-ce qu'il y a au-delà du mur de glace ?
Donc,
le mur de glace, c'est une barrière énergétique.
Pour moi, il n'y a pas de mur de glace, il y a une boule avec de l'eau, voilà. Et on est dessus. Mais voilà. Il y a une frontière qui est une frontière de glace.
Attention, on appelle ça le mur de glace. C'est une ceinture énergétique.
Ceinture énergétique.
D'accord.
Donc qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ?
Voilà, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ?
C'est toi qui aimes le dire.
De l'autre côté, il y a... Accroche-toi, hein, parce que là, ça va être chaud. Hein. Au-delà du mur de glace...
C'est ça, là.
Au-delà du mur de glace, il y a des civilisations qui sont issues d'autres mondes, qui viennent de très loin, et qui sont parmi nous depuis très longtemps, depuis des millions d'années. Certains sont repartis, et d'autres sont restés.
Ouais, et vous êtes dans les Radio X-Files dans cette édition du vendredi 6 février, dis-je bien. Et on va s'attarder aux questions du public et surtout à Patrice le complotiste. Bonjour, bonsoir Christian Page. Tabarouette, il y a du stock là-dedans.
Oh, bonsoir, Mick.
Il y a beaucoup de choses.
Numéro.
Oui, tout à fait.
Qui se dit beaucoup de choses en 30 secondes, une minute. Écoute, effectivement, on vient d'entendre. Aujourd'hui, c'est notre émission un peu question du public. Et celle-là, je l'ai choisie parce que je la trouvais un peu amusante quand même. Ce sont des gens qui m'ont écrit en me disant, est-ce que vous avez vu cette espèce d'individus qui racontent à peu près n'importe quoi. En fait, Patrice, il adhère à tous les complots. Hein. Donc, pour situer un peu les gens, ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de 2 minutes. Si vous avez la gourmandise d'en demander plus, sachez que ça dure 1h30 à peu près. Et c'est un extrait d'un podcast en France qui est éminemment populaire, qui s'appelle Légende. Et c'est animé par Guillaume Play. Entendons-nous, là, c'est généralement un podcast qui est sérieux. On reçoit des gens qui racontent des histoires et on a un assez grand sens critique. Mais c'est du divertissement, bien sûr, on s'entend, ce sont des podcasts qui vise à divertir. Et cette fois-là, ben, on a bien misé parce qu'on a reçu à l'émission ce Patrice, 73 ans, qui adhère à peu près à tous les complots. Donc, la Terre plate, nous ne sommes pas allés sur la Lune, le 11 septembre. Tous les complots qu'on peut imaginer, il y adhère. Et il en rajoute à peu près du grand... C'est du grand n'importe quoi. Et c'est la diffusion originale de ce podcast, c'était le 4 janvier dernier. Et là, des gens m'ont écrit en me disant « Vous en pensez quoi de ce qu'il raconte, etc. » Et là, c'est assez amusant parce que ça rejoint un peu un truc qu'on a mentionné, que j'ai évoqué la semaine dernière ou il y a deux semaines, qui est un peu qu'on appelle dans le milieu de la rhétorique ou de la discussion la loi de Brandolini. Et la loi de Brandolini, c'est de dire que quelqu'un peut dire n'importe quelle bêtise, ça prend deux secondes. Mais si, parce que les gens me disaient, vous deux, tu sais, vous en pensez quoi, comment vous réagissez, je peux pas prendre mon temps à réagir à ça. Parce que si on se réfère à la loi de Brandolini, c'est dire une bêtise, ça prend deux secondes. T'sais. Moi, je peux dire, bon, la Terre est plate. Mais si toi, là, Nick, tu décides de me prouver que la Terre n'est pas plate, ça va te demander beaucoup d'efforts. Ah, tout à fait. Comme là, lui parle du mur de glace. Ben, moi, je te dis, au bout de la Terre est plate, puis en Antarctique, là, c'est un mur de glace qui est là, qui nous sépare, qui fait une frontière. Ben, si moi, je te dis ça, ça me prend 10 secondes de dire ça. Mais si toi, tu veux absolument prouver que ce que je dis est faux, ben, tu vas devoir aller en Antarctique, aller voir s'il y a vraiment un mur de glace, etc., etc. La quantité d'efforts, c'est ça la loi de Brandolini, c'est la quantité d'efforts que demande de démontrer une fausse affirmation est 1000 fois supérieure ou 1000 fois plus demandante et en temps et en énergie là, que de lancer la fausse information.
Ouais, ça a été bien à la mode cette semaine à Québec parce que le maire de Québec l'a soulevé, la loi de Brandolini, pour éviter de répondre à je ne sais plus quelle question, là, mais il l'a soulevé cette fameuse loi de Brandolini. Mais ça, c'est un autre sujet.
Oui, et dans ce caractère-là, c'est un peu... C'est d'ailleurs en science, c'est pourquoi il y a un principe en science qui dit que c'est celui qui fait l'affirmation qui doit démontrer son point. Mmh. On ne doit pas renverser la charge de la preuve. Et l'exemple le plus simple, c'est si toi, par exemple, Nick, tu lances comme ça, tu dis « Il existe des corbeaux blancs. Okay. » Je donne cet exemple-là. « Il existe des corbeaux blancs. » Alors moi, si je veux te prouver, Nick, qu'il n'y a pas de corbeaux blancs, je vais faire le tour du monde. Je vais devoir aller partout dans le monde, voir, inspecter des centaines de millions de corbeaux. Et je vais revenir. Toi, pendant ce temps-là, évidemment, tu es chez toi puis tu joues au Nintendo. Là. Moi, je reviens après avoir fait 4 fois le tour du monde, avoir exploré toutes les contrées les plus reculées de la planète, inspecté des centaines de millions de corbeaux. Et là, je te dis, hey, Nick, il n'y a pas de corbeaux blancs. Et toi, ben, tu hausses les épaules puis tu me dis, ben, c'est simplement parce que tu ne l'as pas vu.
Oui, tu comprends? On part à zéro.
Puis on part à zéro. Ouais. Alors que ce serait beaucoup plus simple pour toi de dire, il y a des corbeaux blancs et en voici un. Donc, c'est toi qui as la charge, tu me dis, il y a un corbeau blanc, voici, je te le montre, et on vient de régler le problème. Merci, bonsoir, il y a des corbeaux blancs, tu l'as prouvé. Mais si j'inverse la charge, ben là, évidemment, ça a plus de fin. Et surtout qu'on ne peut jamais prouver une négation. Hein? Comme moi, par exemple, si tu dis, bon, prouve-moi que le Père Noël n'existe pas. Ben, je me retrouve exactement dans la même figure de style. Je vais aller au pôle Nord, je vais explorer chaque glacier. Je vais revenir en disant, Nick, le Père Noël, je ne l'ai pas trouvé. Donc, puis là, tu vas me dire, ben, c'est simplement parce que tu ne l'as pas trouvé ou tu ne l'as pas vu, tu n'as pas regardé au bon endroit. C'est ça. Ouais. Donc, on ne peut pas démontrer une négation. Et souvent, quand on a des discours un peu complotistes, et c'est dans le cas de notre ami Patrice ici, ben, tu sais, je peux pas démontrer que, s'il me disait, prouve-moi qu'on n'a pas ci ou on n'a pas ça, donc prouver une négation, je ne peux pas le faire. Et qui plus est, dans ce type d'affirmation, ben, c'est ça, lancer une information de n'importe quoi, faire n'importe quelle affirmation, ça prend 10 secondes, le démontrer, ben, ça demande du temps, énormément de temps pour faire ça. Et ultimement, ça rejoint, puis on en a déjà parlé ensemble, je pense que je l'avais évoqué, le principe du pigeon. Le pigeon, c'est-à-dire que, tu sais, lui, il a pas envie d'écouter ton explication. Lui, il est là pour faire caca sur ta table, puis, tu sais, renverser ton jeu d'échecs, ou peu importe, tu sais. Et ultimement, c'est ça, tu dis, je vais tout faire ces efforts-là, et même si tu arrives avec un argumentaire là, qui est excessivement étoffé, tu peux même écrire un livre sur le sujet... Ben, ces personnes-là n'ont pas envie de l'entendre, cette ouais, réalité-là. Hein? Leur idée est faite. Ouais. Moi, j'ai écrit, puis je veux pas m'en plaindre, puis je sais que je l'ai déjà dit, puis je le répète encore. J'ai écrit il y a quelques années un ouvrage qui s'appelait « L'enquêteur du paranormal sur les théories du complot », « L'enquêteur des théories du complot ». Et j'ai passé en revue une dizaine de théories du complot qui sont éminemment populaires. On parle l'homme sur la lune, les chemtrails. Puis entendons-nous, là, quand je parle ici de complot, je parle de super complot parce que j'entends déjà des gens dire « Est-ce que Christian Page est en train de nous dire qu'il n'y a pas de complot? » C'est pas ça. Il y a des complots. On en voit tous les jours des complots à partir où deux politiciens, par exemple, décident de détourner des fonds publics pour mettre ça dans des comptes en Suisse ou aux îles Caïmans. C'est un complot, tu comprends? Donc, des complots, il y en a partout. Ouais. Mais ce n'est pas les complots qui intéressent les complotistes. Ce n'est pas ça qui les intéresse. Ce qui intéresse les complotistes, c'est ce qu'on pourrait qualifier de super complot. Et les super complots, ben c'est la Terre est plate, on n'a pas été sur la Lune, les tours du World Trade Center ont été détruites par une inside job. Bon, tu vois le genre. Ça, ce sont des super complots. Et c'est ce qui intéresse les complotistes. Et dans cet univers-là, donc moi, quand j'ai écrit mon livre sur les théories du complot, ben je me suis attardé à 10 à peu près complots, le très populaire, mais on parle de super complots, et chemtrade et tout le reste. Mais ce livre-là, j'avoue, pas que je le regrette, mais j'ai... Il ne s'adressait pas d'ailleurs aux complotistes. Je sais bien qu'un complotiste, pour les avoir côtoyés, ce sont des gens qui ont déjà une idée toute faite. Et moi, je ne suis qu'un rouage du complot. C'est-à-dire que si tu me dis, bon, il n'y a pas de reptiliens, ou le monde est contrôlé par les reptiliens, moi, je te dis, il n'y a pas de reptiliens, ben, je deviens automatiquement un reptilien moi-même ouais. qui est là pour te dire qu'il n'y a pas de reptiliens. Tu comprends? Donc, je deviens un rouage du complot. Donc, on ne peut pas s'adresser à ces gens-là. Il y a comme, à un moment donné, il faut accepter de baisser les bras puis dire, bon, ben, il n'y a rien à faire. Puis je sais, les gens, souvent, il y a des gens qui me racontent qu'ils ont des membres de leur famille, des amis ou des parents qui sont tombés un peu dans ces théories du complot. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Le mieux, c'est de ne pas couper les liens avec ces gens-là, bien sûr, mais surtout d'éviter de parler de leurs convictions. Parce qu'éventuellement, ces gens-là sont complètement sourds à tout argument. Ils ont une idée qui devient presque une espèce d'idée religieuse, un délire religieux, et on ne peut rien faire contre ça. Donc, essayons de garder le contact, mais surtout pas essayer de les convaincre qu'ils sont dans l'erreur. C'est absolument inutile. Et quand j'ai écrit ce livre-là, évidemment, je ne m'adressais pas à ces gens-là. Je sais que leur idée est faite, puis il n'y a rien qu'on peut faire. Je m'adressais aux gens, de façon normale, qui ont entendu parler de ces histoires-là et qui ont peut-être, à un moment donné, eu ce réflexe de dire pourrait-il y avoir quelque chose de vrai là-dedans? Tu sais, bon, les tours du World Trade Center, c'est vrai qu'on a l'impression qu'elles se sont écroulées d'une drôle de façon. Est-ce que qu'il pourrait s'agir d'un dynamitage de l'intérieur? Bon, les gens lèvent les yeux au ciel puis ils se disent, me semble que je vois plus de traînées d'avions dans le ciel que j'en voyais quand j'étais jeune. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de vrai derrière les théories des chemtrails. Donc, c'est à ces gens-là que je m'adressais. Mais ultimement, je ne suis pas convaincu d'avoir atteint vraiment la cible. Et deuxièmement, cet ouvrage-là est devenu pour moi un peu une épine dans le pied dans la mesure où les complotistes l'ont récupéré. Et là, ça a été des campagnes de haine épouvantables sur les médias mm-hmm. sociaux, des menaces. On le voit, là, essentiellement, ces derniers jours, on a beaucoup parlé des femmes dans les médias qui reçoivent toutes sortes de commentaires oui. et de menaces et de courriels menaçants. Et moi, ben, évidemment, je les rejoins, je les comprends, parce que dans le cas des complotistes...
C'est la même chose.
Quand cet ouvrage-là est sorti, je recevais au quotidien des menaces, hein, des gens qui me disaient que je devais être payé par les médias pour dénoncer ces complots-là, puis etc., puis je devais faire une fortune. Puis... Et à un moment donné, à un point tel que... Pour... Moi, je travaille pour une grande station de radio de Montréal et j'ai dû informer la direction qu'il y avait des gens qui menaçaient de s'en prendre physiquement à moi, là. Un peu comme ces gens qui écrivent aux speakerines, aux animatrices qui de la télé ou qui font la météo et qu'on les menace physiquement de s'en prendre à elles. Puis je les comprends, hein, quand elles disent à un moment donné, on a eu peur. Je ne dirais pas que j'ai eu peur. Mais on a quand même envoyé des mémos en disant à la direction, dans le hall d'entrée, il y avait comme un accueil, une réception, puis on disait, si des gens viennent là pour demander à parler ou à voir Christian Page, ben il faut nous en informer, parce que il y a des gens qui voulaient physiquement s'en prendre à moi. Donc, j'ai pas atteint ma cible, et évidemment, cet ouvrage-là, c'est un peu comme retourner contre moi, parce que les complotistes, ouais, c'est vraiment une catégorie à part. Et je te cacherai pas que même encore aujourd'hui, hein, il y a pas une semaine que je reçois pas des courriers haineux, hein. Je suis un cave, je suis un imbécile. Puis là, je te passe les commentaires les moins vomissants, là, hein. Parce mais que bon, c'est, très, c'est... très rapidement, ça descend sous la ceinture.
Oui, j'imagine. Puis on dirait que c'est le seul argument qu'ils ont pour se défendre. Puis
L'insulte.
L'insulte.
T'as tout à fait raison, Nick, parce que je le dis souvent, moi, personnellement, là, puis je le dis, là, les gens qui nous écoutent, là, je suis toujours ouvert à la discussion. Moi, quand je dis, par exemple, je crois pas aux visites extraterrestres, ou je crois pas que les gens se font enlever par des extraterrestres. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui, eux, sont convaincus qu'on se fait enlever par des extraterrestres, puis qui ont étudié le sujet, puis qui ont envie d'en parler, puis d'argumenter, puis d'échanger de manière posée, de manière intelligente et respectueuse, je suis toujours ouvert à ça. J'ai pas la science infuse. Je peux me tromper également, là. Mais me dire « j'ai écouté votre émission, votre commentaire, vous êtes un mangeur de marde ou un trou de cul
», ça
mène nulle part. Ça. Donc, si les gens ont des arguments ou des échanges, puis ils veulent argumenter de manière polie, de manière civilisée, moi, je suis toujours ouvert à ça.
Mais
bon, malheureusement, l'argument, tu as tout à fait raison, Nick, l'insulte est souvent l'argument, ouais, de celui qui n'en a plus.
C'est comme si c'était trop confrontant, Christian, de peut-être réaliser que la réalité qui est distorsionnée est fausse. Je ne sais pas comment l'expliquer.
Oui, c'est ça. Ouais. Mais en fait, c'est ça, c'est une dissonance cognitive. Hein? Ouais, c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, c'est que la personne qui a cette information qui va à l'encontre de ses croyances, ben, il réagit comme si c'était une attaque personnelle. Puis souvent, ben, il va réagir avec violence, soit par geste ou par les mots. Mais ultimement, bon, c'est un peu ça. Les théoriciens du complot, ben, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Puis moi, je le sais pour avoir écrit un ouvrage sur le sujet. Comme par exemple, tu sais, quelqu'un me dit « il y a des chemtrails ». OK, parfait, des chemtrails. Mais moi, là, le chapitre, quand les gens lisent cet ouvrage-là que j'ai fait sur les théories du complot, ben, si tu lis le chapitre sur les chemtrails, ben, t'as 30-40 pages, ça m'a demandé 2 ans de travail pour faire ça, là. C'est donc, j'ai rencontré les gens de l'OACI qui s'occupe des avions. J'ai rencontré les contrôleurs aériens. J'étais allé chez Bombardier pour voir comment on pourrait modifier un avion, etc. J'ai rencontré des spécialistes dans les climats. Tu sais, j'ai fait un grand travail et toutes les références et les sources sont données, là. T'sais, j'ai même parlé avec des gens de chez Greenpeace, là, tu sais, qui, eux aussi, recevaient chaque année des demandes pour enquêter sur des chemtrails. Et le contenu de ce travail-là, il était mis dans l'ouvrage. Mais moi, ça m'a demandé 2 ans de faire tout ce travail-là.
Ouais,
alors que alors que Marcel, lui, il se lève, il sort dehors sur son balcon, il regarde dans le ciel, il voit 2 lignes blanches, puis là, il se fait une petite vidéo, là. « Hey, tabarnak, tu voyais bien qu'il y a des lignes dans le ciel, là, c'est-tu? » C'est fait.
Parfait. C'est exactement okay. ça.
Bon, c'est OK, excellent. Tu sais, puis bon, OK, on passe à autre chose. Donc ça, c'est un petit peu malheureux. Mais bon, pour répondre à la question du public, non, oui, j'ai vu l'entrevue avec Patrice de 73 ans et non, je n'ai pas envie de commenter outre mesure les commentaires de Patrice qui adhère à toutes les théories du complot. Il y a comme pas grand-chose à faire quand on est rendu à ce stade-là.
Ah non, tout à fait. Puis j'en ai entendu une hier dans une ligne ouverte. Je sais même pas, Christian, si tu as déjà entendu parler de cette théorie du complot-là, mais ça concernait le Titanic et un bateau qui s'appelle l'Olympique. On aurait
changé. Ils auraient changé.
Wow, oui, ben...
Ouais. Et pourtant, quand on voit l'épave du Titanic, d'ailleurs, c'est comme si d'avance on aurait su que le bateau allait frapper un iceberg.
Oh, oui, c'est ça.
Puis même si on accepte cette idée-là, il faut quand même se dire que je pense par exemple que les pièces, il y a des pièces qu'on a remontées du Titanic où une des pièces qui est bien bien visible, une des hélices du Titanic, on voit le numéro sur l'hélice, le numéro de série de l'hélice, ben, c'est bel et bien une hélice du Titanic. Donc si on avait voulu changer navire, c'est pas seulement le navire, il aurait fallu changer les pièces. Et qui aurait pu se douter en 1912, même si on avait voulu volontairement couler le navire, imagine-toi là, tu es le propriétaire de la White Star Line, tu t'appelles Bruce Ismay, tu dis moi je vais couler un de mes navires, puis je vais le changer, bon l'Olympique pour le Titanic, puis je vais le couler. Mais en 1912, au moment de couler ton navire par 4000 mètres de fond, tu ne peux pas t'imaginer que dans 70 ans, des sous-marins sont en mesure de se rendre jusqu'à l'épave.
Non,
et qu'éventuellement, on pourra relocaliser l'épave. Donc, tu n'aurais pas pensé à changer le numéro de série sur les hélices en sachant pertinemment que quand le navire sera coulé, il va reposer par 4000 mètres de fond et que personne ne peut aller par 4000 mètres de fond. Donc, ça n'a comme pas de sens à ce niveau-là.
Ben oui,
tu comprends là. Et bon, bien sûr, c'est d'aller à l'encontre même du bon sens. Là, je veux dire, comment tu peux imaginer un truc comme ça quand tu as 2500 passagers qui montent sur le navire, puis l'équipage et tout le reste? Imagine-toi la proportion du complot. C'est souvent ça dans les théories du complot, puis je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais le talon d'Achille des théories du complot, c'est le nombre de gens impliqués. T'sais, prenons par exemple les chemtrails. Si les chemtrails, c'était vrai, ça veut dire qu'il y en a partout dans le monde, hein, parce qu'il y a des complotistes en France qui filment le ciel puis ils voient des chemtrails. Il y en a en Angleterre, partout. Donc, il y a des chemtrails partout. Ça implique qu'il y a comme une espèce de consensus à l'échelle internationale entre les compagnies aériennes pour produire de ces avions-là qui vont éventuellement larguer des gaz ou faire de l'ensemencement là, dans le ciel avec des produits toxiques. Et évidemment, il y a tous les contrôleurs aériens qui sont embarqués dans le complot, parce que dire, l'avion qui est là pour le vol largué, ils savent bien que le vol A302, il fait pas la liaison Paris-Londres. C'est bon, il est là pour déverser des chemtrails. Et ensuite de ça, tous les pilotes que ça implique, qui font partie de ces avions-là, qui appuient sur le bouton chemtrail, tous les ans, les gens dans l'ingénierie aéronautique qui ont modifié ces appareils pour en faire des systèmes où on peut larguer ces fameux gaz toxiques, toutes les compagnies de produits chimiques qui fabriquent ces produits-là et qui les acheminent vers les aéroports, tous les employés d'aéroports qui les montent à bord des avions, t'sais? Et ça fait 40-50 ans qu'on parle des chemtrails, et qu'avons-nous vu de ces preuves-là? Zéro.
C'est ça, il y a
Même pas un bordereau de chargement, là. Rien du tout, là.
Dans tout ce monde-là, il n'y a pas personne qui a dévoilé le secret. C'est ça qui est...
Non, et dans l'univers des complots, souvent, je ne sais pas dans quel monde ils vivent, mais c'est un monde où les gens n'aiment pas l'argent. Parce qu'en réalité, dès qu'on parle de théorie du complot, les gens aiment l'argent. Et à un moment donné, ben, y a quelqu'un là-dedans, soit qu'il a divorcé, puis il se retrouve dans une situation financière difficile, puis il va aller vendre son secret dans un journal. Il va dire, moi, je travaille pour compagnie X ou Y, on fabrique des produits chimiques, on les monte des avions, puis on les largue. Puis ensuite de ça, ceux qui larguent les produits chimiques, tu dis, ouais, ben, le pilote d'avion qui largue des produits chimiques au-dessus de l'Angleterre, ben, il se dit qu'en dessous, il y a sûrement des gens qu'il connaît, peut-être des amis ou de la famille. Là, les gens, les théoriciens du complot, disent, ouais, mais c'est des pilotes français qui larguent ça au-dessus de l'Angleterre,
ah bon?
OK? Mais les pilotes d'Angleterre, les larguent au-dessus de la France. Puis le pilote d'Angleterre qui largue au-dessus de la France, il doit bien se dire qu'il y a un pilote français qui est en train de larguer des produits chimiques sur son pays à lui aussi. Ça devient comme aberrant. On multiplie par 10, par 1000, par 100 000 le nombre de gens qui sont impliqués dans ces théories du complot. Ça n'en finit plus. Et éventuellement, il n'y a jamais de fuite de ça.
Oui, c'est ça.
Et c'est là que ça ne fonctionne pas. Tu dis, bon, ben, on perd le contrôle de ces théories-là qui deviennent tout à fait fantaisistes. Mais même si on sort, encore là, ce que l'on dit, toi et moi, on se dit, ben là, ça semble être plein de bon sens, tu sais. Mais ça ne changera rien, là. Il y a des gens qui nous écoutent. Puis je sais qu'après l'émission, il y a des gens qui vont m'écrire puis vont me traiter de tous les noms parce que...
Réveille-toi, tabarnak, il y en a des chemtrails.
OK, parfait. OK, c'est parfait. C'est comme ça. Mais on n'y arrive pas, là, tu sais. Là. Puis ultimement, ben, l'argumentaire, encore une fois, ça demande tellement d'énergie de combattre ces fausses idées-là. Et ultimement, ça rapporte strictement rien. C'est pourquoi moi, j'ai décidé qu'à un moment donné, les théories du complot, c'était assez. Là. Je pense que j'ai donné. Si les gens veulent savoir de quoi il en retourne, j'ai écrit un livre sur le sujet. Sinon, ben, y a d'excellents ouvrages qui ont été écrits sur l'ensemble des théories du complot. Et j'invite les gens à se documenter, mais pas essentiellement de rester dans une chambre d'écho, parce que c'est ça le problème. Dans le cas des théoriciens du complot, ils se documentent sur les réseaux sociaux. Et très souvent, ben, les réseaux sociaux les envoient vers d'autres gens qui partagent les mêmes idées délirantes. Et ils se retrouvent dans des chambres d'écho pour lesquelles on ne peut pas avoir de jugement éclairé, t'sais.
Souvent, l'argument aussi, c'est que ah, mais nous, on est un média traditionnel, on est contrôlé. Il y a des gens qui nous disent ce qu'il faut dire, mais ils regardent ça sur YouTube, qui est juste un autre. Mais c'est un média alternatif, ça reste un média pareil.
Oui, absolument. Écoute, voilà, je pense qu'on a fait le tour des théories du complot. Oui. Donc, on va prendre une pause et après, je voudrais te parler de la bougosphère.
Avec plaisir, Christian. Bougez pas. On revient tout de suite après ces courts messages sur les ondes de choix 98.1 Radio X.
Radio X Files. Avec Christian Page.
Radio X Morée. Live.
Ils ont coulé l'information. Oui. Il est candide. C'est 13 milliards, il l'a dit. Mais quand même...
Tu parles de qui, là? Steve Lavoie.
Arrête ça!
Steve!
Ils le savent! La Caisse, la CAQ et le fédéral. T'sais, ils ont toute la main sur la plug. Qui tire, là? Parce que y a personne qui veut passer pour un écœurant auprès de la gang de Montréal puis des frotteux de Québec.
Morée live.
Lundi au vendredi, 6h.
Radio X.
Présenté par Multiconfort FP.
En février, épargnez 15% sur l'installation de votre nouvelle thermopompe et obtenez 6 mois sans paiement ni intérêt sur certains produits.
Multiconfort FP à Québec et Victoriaville.
Bière et Frites vous offre pour la Poutine Week du 1er au 7 février la grosse poutine avec saucisse et avec la pinte de bière de votre choix pour 13,99. Vous avez bien entendu, une grosse poutine avec saucisse et une pinte de Bud Light 50, Archibald, Stella Artois ou Au Garden pour seulement 13,99. 13,99, c'est imbattable, comme toujours chez Bière et Frites. Bière et Frites, prix imbattable, goût imbattable, même pas proche. 550 rue Marais, 44 Président Kennedy à Lévis.
Vous n'arrivez plus à payer votre hypothèque? Vous n'arrivez plus à entretenir votre maison. Vous avez peut-être hérité d'une propriété et voulez vendre rapidement? Visitez simplimo.ca et recevez une offre en 24 heures et votre argent en moins de 30 jours. Fini l'attente interminable avant de notarier. Fini les négociations compliquées. Simplimo.ca achète votre propriété telle qu'elle, sans garantie légale. Au simplimo.ca ou téléphonez au 418-883-0536.
En 2026, le groupe n'a Père fête son 40e anniversaire et préparez-vous à de très grosses promotions tout au long de l'année. Et ça continue pendant Expo Habitat. Sur tous les poêles et foyers, Noréa Foyer Napère vous donne un rabais minimum de 15 %. Et minimum, ça veut dire qu'il y a plusieurs modèles, dont des démonstrateurs avec des rabais du type premier arrivé, premier servi. Minimum 15 % sur tous les poêles et foyers. Ça se termine dimanche à Expo Habitat et samedi chez Noréa Foyer Napère à Sainte-Marie et à Québec.
Le plus grand match de l'année mérite le plus gros week-end de l'année!
Chez Couche-Tard, équipe Coors Light ou Miller Light, tout le monde gagne. Ce samedi et dimanche, la caisse de 15 canettes est seulement 19,99. Une offre hot, hot, hot!
18 ans et plus, consommer avec modération. Offre valable les 7 et 8 février seulement.
Couche-Tard fait votre journée avec les gros rabais du gros week-end. Du 5 au 9 février, c'est le gros week-end du gros match chez Couche-Tard. Avec les caisses de 4 Red Bull à 7,99, les caisses de 12 Pepsi ou Bubbly à 2 pour 13 et les caisses de 15 Coors Light et Miller Light à 19,99. En plus, recevez une carte rabais de 15 à l'achat de 2 caisses de bière de format de 24 ou plus. C'est le temps d'inviter la famille et les amis. Couche-Tard, ça fait votre journée. 18 ans et plus, détaillant magasin.
Chez Enviroconfort, la remise météo se poursuit en février. Profitez dès maintenant de 10 % de remise sur toutes nos thermopompes. Et en mars, c'est 5 % d'économie qui vous attend. Mieux encore, retrouvez-nous au Salon Expo Habitat. Nous bonifions la remise météo avec une offre exclusive. 6 mois de financement sans intérêt. Bénéficiez des meilleures promotions de l'année. Enviroconfort, le choix du consommateur numéro 1 en chauffage et climatisation.
Enviroconfort.com.
Bonjour, c'est moi ton sommeil, ici sur invitation de Dormez-vous. Bon là, c'est la meilleure partie de l'année, c'est la haute saison du sommeil qui commence. T'as le goût d'une sieste à l'heure du lunch, une autre sieste après le souper, un petit somme d'après-sieste. Hey, fais-toi plaisir. Pourquoi tu penses qu'il fait noir plus tôt à ce temps-ci de l'année? Allez, va faire dodo.
Pendant l'événement Blottier au lit, obtenez jusqu'à 30 % de rabais sur les oreillers, duvets et plus encore. Seulement chez Dormez-vous pour un temps limité. Des conditions s'appliquent.
Vous regardez des émissions de réno ou encore vous avez visité le salon Expo Habitat et vous vous demandez par où commencer pour réaliser le projet de vos rêves au meilleur prix? La réponse, c'est Céramique L'Entrepôt. Le plus grand choix de céramique, vinyle clic et plancher flottant à partir de 1,49 $ le pied carré. Céramique L'Entrepôt, choix, qualité et bas prix depuis près de 30 ans. Et vos produits toujours disponibles sur le champ. Céramique L'Entrepôt, 850 Pierre Bertrand, face à l'entrepôt du hockey.
S'il y avait un camp de recrutement pour devenir véhicule certifié d'occasion Paquet Nissan et Saint-Nicolas-Nissan, il y aurait beaucoup d'appelés et peu d'élus. Car ce n'est pas n'importe quel véhicule qui peut entrer dans la famille. L'équipe les teste, les inspecte et garantit qu'ils donnent encore leur 100 % en tout temps. Profitez du financement à partir de 2,99 % et des plus, dont le programme de changement d'huile à vie. Vous verrez que même d'occasion, votre Nissan du groupe Paquet est encore au sommet de sa forme. Détails chez Paquet Nissan et Saint-Nicolas-Nissan.
Besoin de chariots élévateurs sur vos chantiers, votre cour ou votre entrepôt? Giroir Équipement est le spécialiste de confiance avec ses équipements Manitou. Une gamme de chariots élévateurs télescopiques complète, prête à vous aider dans vos projets. Giroir Équipement, giroir.qc.ca.
C'est la grosse vente chez Maxi, fait qu'on sort le gros stock. Le gros sac de 10 livres de patates à 1,99 $. La douzaine de gros œufs à 2,99 $. Et les ailes la cage au flamingo à 6,95 $. Grosse vente, grosse économie. Plus de détails en circulaire et chez Maxi.
Les Dames de Pique, c'est une ambiance qui fait parler et revenir. Tu ne veux pas passer ta Saint-Valentin seule ou tu veux t'offrir une sortie qui fait monter la tension? Les Dames de Pique, on est merveilleuses et à l'écoute de tes besoins. Passe nous voir, on prend soin de toi. Sur le chemin Craig, à Saint-Nicolas.
Radio X, Files.
Avec Christian Page.
Radio X.
On est de retour dans les Radio X-Files dans cette édition du vendredi 6 février. Juste avant la pause, on parlait de théorie du complot. On va mettre ça de côté un peu. Dans la thématique des questions du public, Christian, tu voulais nous parler de la bogosphère.
Oui. C'est... bon, on m'a posé cette question-là. Oui? Est-ce que j'avais entendu parler de la bogosphère? Oui. On pourrait faire une émission. On s'inscrit ici plutôt dans l'univers des ovnis. On aurait pu faire une émission complète sur le sujet. C'est un sujet qui est très riche. Mais ma grande question, c'est est-ce que j'ai envie de faire une émission complète sur ce sujet-là? Et la réponse est non.
Bon.
Alors, je t'évoque un peu de quoi il est question.
Oui.
C'est, en fait, la bogosphère, c'est Bouga, c'est le nom d'une petite ville en Colombie. Et, bon, la sphère, tu as bien compris que c'est un objet sphérique, hein, qui est à peu près la taille d'un ballon de soccer. Et l'objet a été vu, même dans certains cas filmé, c'était le 2 mars dernier, donc le 2 mars 2025. L'objet aurait donc été vu au-dessus de Bouga avant de tomber au sol. Et là, ben, des gens l'ont récupéré. Et là, très rapidement, des amateurs d'ovnis, soi-disant spécialistes, vont éventuellement prendre part au dossier. Bon, la sphère elle-même, quand on consulte, bon, c'est, comme je l'ai mentionné, c'est une boule qui ressemble un peu dans un métal qui ressemble un peu à de l'aluminium. Elle a à peu près la taille d'un ballon de soccer. On ne voit aucun joint, aucune soudure. Quoique au centre, en fait, sur la circonférence de l'objet, on voit une espèce de ceinture métallique. Bon, évidemment, on peut se poser la question, est-ce que c'est la façon dont les deux demi-sphères sont réunies l'une à l'autre? Ben, quoi qu'il en soit, c'est un peu l'aspect qu'elle a. Quand on regarde l'objet, on voit, bon, il y a comme des dessins sur l'objet qui ressemblent un peu à des croissants. On voit également de l'écriture qui ressemble un peu au sanskrit, donc l'écriture indienne ou hindoue. Et puis, on voit aussi un objet, une espèce de figure qui ressemble un peu, schématiquement, on dirait le dessin technique d'un circuit électronique là, qu'on voit sur les dessus de l'objet.
Okay.
Et puis, l'objet, bon, ce que l'on en sait, si on fait... près de l'objet, on fait résonner, par exemple, des fréquences qui vont de 190 à 300 Hz. L'objet vibre, il semble vibrer, et son poids, C'est un peu amusant parce que, bon, dépendamment des sources, son poids originalement était à peu près plus ou moins de 4 kilos. Je dis à peu près parce que, d'après ce que les gens qui ont approché la sphère ou qui en sont, et on va revenir un peu là-dessus, qui en sont un peu les porte-paroles, la sphère aurait pris du poids. Hein, elle aurait passé de 16, là je parle en termes de livres, là, elle aurait passé de 16 à 20 livres, puis là maintenant elle pèserait apparemment 22 livres. Ce que l'on sait de l'objet, encore une fois, toujours, parce que tu vas vite le comprendre, l'objet est un peu comme devenu la chasse gardée de certains amateurs d'OVNI. Hein? Il est dans ma cour, puis je le garde dans ma cour soigneusement protégé. Là. C'est là. Apparemment, l'objet serait composé de 3 couches de métal, des feuilles de métal très minces, et à l'intérieur, il y aurait une espèce de cœur de l'objet qui est une... peut-être de la résine, et à l'intérieur de cela, il y aurait comme 18 microsphères qui se trouveraient à l'intérieur. Et puis, on nous dit que l'objet serait actuellement à l'étude à l'Université nationale autonome de Mexico. Bon, c'est à peu près l'information. Et là, on peut commencer à se poser des questions sur le sens critique, parce que là, il y a comme des vidéos qui circulent. Dans l'univers des ovnis, l'objet est devenu un peu comme une espèce de Saint Graal. On retrouve autour de l'objet, je vais y revenir, mais il faut quand même le mentionner, on retrouve les principaux acteurs qui sont autour de la sphère. On retrouve notamment Jaime Maussan, qui est un animateur de télévision mexicain, qui est également un ufologue, qui se définit un peu comme un ufologue, et également Stephen Greer, qui est un médecin, mais qui ne pratique plus, mais on reste médecin toute notre vie, là, mais qui est un médecin qui ne pratique plus, mais qui a abandonné la fonction, la carrière de médecin pour se consacrer aux ovnis. Et à la fois Stephen Greer et Jaime Maussan sont des individus qui tiennent des discours là, tout à fait fantaisistes. Et au cours des dernières années, ils ont été associés à un nombre incalculable de fraudes. Donc, ce sont des spécialistes de la fraude et de l'arnaque. Et donc, c'est ces gens-là qui sont un peu les maîtres de la bogosphère. Donc, quand on regarde ça, puis on essaie de prendre un pas de côté, on le regarde essentiellement, comme moi je le regarde essentiellement sur l'aspect journalistique de la chose, ce que l'on constate très rapidement, c'est qu'il n'existe... On a tout un discours scientifique, il y a des vidéos, puis là, ils nous racontent toutes sortes de choses. C'est un discours pour noyer les gens, ça, là. Oui, on est rendu qu'on nous parle de physique quantique, puis de fibre optique, puis ça a l'air très sérieux, mais... Quand on regarde ces vidéos-là, il suffit d'un œil un peu exercé pour voir que c'est de la mise en scène. C'est des gens avec des combinaisons. Tu sais, la personne a une combinaison pour se protéger des radiations, mais elle manipule la sphère à main nue. Tu vois un peu le genre, tu dis, c'est une absurdité, ça, là. Et on voit toujours, notamment dans certaines vidéos, on voit toujours en arrière-plan une espèce de compagnie là, qui s'appelle Technology, là, Germany Technology. Puis ces gens-là, ben, ce sont des gens qui évidemment, quand on regarde la sphère au milieu, on a l'impression qu'on est dans un atelier d'électronique, dans un garage ou dans un sous-sol. Okay. On voit toujours le nom de la compagnie derrière. Et puis, éventuellement, ces gens-là vendent des gadgets pour chasser les fantômes, ce genre de trucs. Donc, tu vois un peu le... Donc, on a ce Stephen Greer, Jaime Maussan. Ils sont associés également à une télévision web qui s'appelle Gaia, qui fait des documentaires, mais tout à fait fantaisiste là, sur à peu près n'importe quoi, ésotérique, mystique et tout le reste. Quand on regarde ça essentiellement sur le plan journalistique, là, j'essaie de dire, OK, n'ayons pas de parti pris. Qu'est-ce que je constate très rapidement, c'est qu'on est en présence d'un objet qu'allez en croire, le discours qu'ils tiennent, cet objet-là est fabuleux, fantastique. Oui. On est clairement là, en présence d'un objet d'une origine extraterrestre. Fantastique. Mais pourtant, quand on a l'impression que quand c'est la question des ovnis, c'est toujours très compliqué. On se dit que ça serait si simple de prendre la sphère, puis tu l'amènes à Oak Ridge ou au laboratoire d'Oak Ridge, tu le donnes, puis regardez ça, puis dites-nous, non, ça se passe jamais comme ça. C'est toujours le beau-frère de mon cousin qui a fait l'analyse de... C'est tout le temps un peu mystérieux. Et dans le discours, quand on regarde la documentation, les vidéos qu'ils font, notamment sur Gaia, c'est toujours de dire, des spécialistes à l'université ont conclu, mais quel spécialiste, quelle université, tu comprends? C'est... Oui, des scientifiques prétendent ceci, des scientifiques prétendent ça. On peut-tu les voir, ces scientifiques-là? Ce que l'on constate très rapidement, c'est qu'il n'existe aucune documentation publiée sur la sphère. J'ai pu, moi, dans les recherches que j'ai faites, j'ai pu retrouver que deux papiers à caractère scientifique, entre guillemets, mais ces deux papiers ont été écrits par un certain Patrick Morcillo, qui se prétend ou qui se présente ou s'autoproclame physicien. Ce sont des papiers en première lecture, ont de l'air très scientifique, mais ils n'ont pas été publiés dans aucun périodique scientifique. Là. C'est un type qui a écrit ça et qui a mis ça sur le web. Là. Okay, ça n'a pas été publié dans un magazine de science. Là. Ouais. Ça donne une saveur de science, une odeur de science, mais ça n'en est pas. Là. Je veux dire, c'est pas comme ça que ça fonctionne en science. En science, on publie dans des périodiques avec des comités de lecture, ben, etc. On n'a pas ça. Dans le cas de la sphère, ça fait pratiquement un an, mais ça fait bientôt un an que la sphère est là, et on n'a aucun papier scientifique qui a jamais été publié sur cette histoire-là. Comme je l'ai mentionné, le fait qu'il y a gravé autour de la sphère des gens comme Jaime Maussan ou Stephen Greer, ben là, évidemment, on peut se poser de très sérieuses questions. Encore une fois, il y a aussi cette histoire là, de Germany Company d'électronique qui est associée. Mais on a l'impression qu'ils profitent des vidéos de la sphère pour essayer de vendre le cossin. J'ai même vu une scène où on voit un de ces scientifiques-là qui tient aux côtés de la sphère un K2. Un K2, c'est les détecteurs de champs électromagnétiques qui sont notamment utilisés par les amateurs de fantômes. Et bon, bien sûr, évidemment, chaque vidéo et chaque discours, c'est une espèce de charabia pseudo-scientifique essentiellement pour abuser des gens. Quand t'es rendu à évoquer la physique quantique à tout bout de champ, là, t'es sûr que tu vas perdre les gens, puis oui. Les gens vont dire « OK ». Et puis, ben, comme je l'ai mentionné, c'est toujours quand la crise ovni, c'est toujours compliqué. Et ensuite, la crème sur le gâteau, c'est une analyse au carbone 14. Alors ça, vraiment, c'est extraordinaire. Oui. On a une analyse au carbone 14 qui nous est présentée par Stephen Greer. Donc, Stephen Greer nous présente ça. C'est une analyse au carbone 14 qui aurait été faite par l'Université de la Géorgie. Et l'analyse au carbone 14, elle est datée du 19 septembre 2025. Et quand on regarde ça, ben là, on dit, wow, une analyse au carbone 14 et qui dit que la sphère daterait de 12 560 années. 12 560 ans. Mm-hmm. Tu dis, wow, à cette époque-là, on n'a pas de technologie, là. Évidemment, dans les vidéos, on te récupère ça en disant « Ah oui, mais dans cette époque-là, on est avant l'ère de la glaciation, il devait y avoir une super civilisation, sinon des extraterrestres, sinon des Atlantes, des intraterrestres, des êtres d'autres dimensions, le Mazan, tout ce que tu voudras. » Parce que quand même, à l'époque, là, 12 560 ans, on était encore, c'était la préhistoire. Là, on était au tout début de l'ère de l'Homo sapiens. Là. On tapait sur des roches dans ce temps-là. Là. Donc, on n'aurait pas pu faire la fameuse sphère. Mais en réalité, là, quand tu regardes ça de plus près, tu t'aperçois qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas là-dedans. D'abord, quand tu regardes le fameux rapport d'analyse, la première chose que moi, comme journaliste, je regarde, je me dis, ouais, c'est quand même curieux que le rapport qui date de septembre 2025 ait le logo de l'Université de la Géorgie qui a été modifié depuis 2016. Donc, okay. On a un ancien logo d'avant 2016 sur une analyse au carbone 14 qui est supposée dater de 2025. Mm-hmm. Ouais. Donc là, déjà, tu dis, bon, il y a comme des petits éléments. Dans l'adresse du destinataire, hein, bon, il y a une analyse au carbone 14. L'analyse est envoyée à Stephen Greer, qui, lui, son nom de compagnie, c'est Sirius Technology. Bien, sur la lettre, c'est écrit Technilogie. Hein, donc, il y a une erreur d'orthographe. C'est trop possible que oui. Des scientifiques fassent une erreur d'orthographe sur la lettre d'un destinataire. Mais déjà, tu dis, ça va pas bien, là. Le mauvais logo, le mauvais nom. Et là, ensuite, quand tu commences à lire le document, il y a comme une ambiguïté. Au début, le document parle d'une analyse sur des foraminifères. Les foraminifères, ce sont des petits organismes microscopiques avec des coquilles. Hein. Imagine-toi là, des coquillages, là, tu sais, des huîtres, etc. La structure solide et rigide de la coquille, ce sont des foraminifères. Et ça, ben évidemment, comme ces animaux-là existent depuis la préhistoire, on en trouve une quantité dans le limon, dans la terre, etc. L'argile, par exemple, si toi, par exemple, tu fais de la poterie, tu prends de l'argile ou tu achètes de l'argile, ben il y a dans l'argile, tu vas trouver des résidus de ça. Il y en a partout, là. Partout, il y a ça. Donc, l'analyse dit, bon, on a analysé les foraminifères, et là, un peu plus loin dans l'analyse, on parle de la résine à l'intérieur de l'objet, etc. Mais quand tu lis le rapport, acceptons un instant que ce soit un véritable rapport, même s'il y a ces petites anomalies du logo, des anomalies dans l'adresse du destinataire, tout ça, acceptons que ce soit un vrai rapport. Bien, on est quand même frappé que dans le document, à aucun moment, il est mentionné, la bougosphère est mentionnée. La seule chose que nous dit ce rapport-là, c'est qu'on a fait une analyse sur ce qui apparaît être de la résine ou encore des foraminifères. Et on nous dit, ça, c'est vieux de 12 560 ans. Mais oui, mais moi, si je creuse dans ma cour pour prendre de l'argile, m'avoir de la matière qui, tu sais, ou si je creuse dans le limon d'une rivière, m'avoir de la matière organique fossilisée qui date de millions d'années. Ça veut pas dire que la poterie, le vase que j'ai chez nous date d'un million d'années. Tu comprends?
Oui.
C'est un peu comme si toi, tu décides de faire construire, tu décides dans le bois de construire un chalet en bois, puis tu coupes des arbres. Et là, tu me demandes, Christian, tu peux-tu me faire une analyse au carbone 14 sur les arbres? Je te dis, ouais, ben, Nick, l'arbre, là, l'analyse du bois, c'est 500 ans. Là, toi, tu dis, ben, hey, mon chalet date de 500 ans. Mais non, ton chalet date de la semaine passée. Le bois date de plus longtemps. Mais bon, c'est parce qu'il est dans le bois. Et là, donc, la seule chose que nous dit ce rapport-là, c'est que on a analysé de la résine ou des foraminifères et qui, eux, datent de 12 560 ans. Mais, je veux dire, de la résine, je veux dire, c'est pas étonnant, ça veut dire de l'ambre, on peut en acheter au magasin de l'ambre, puis de l'ambre, c'est de la matière fossile, c'est de la résine préhistorique, tu sais, ça date des millions d'années. C'est pas parce que t'as un bijou avec de l'ambre que ton bijou date de millions d'années. Tu comprends ce que... Il y a comme une absurdité là-dedans. Et à aucun moment, il est mentionné la bougosphère. La seule chose, pourquoi on l'associe à la bougosphère, c'est parce que celui qui nous présente cette analyse au carbone 14, c'est Stephen Greer. Donc, il nous prend, il nous présente ça à bout de nez, puis il dit oui, la sphère date de 12 560 ans. Ben là, il trompe les gens en disant ça, c'est pas ça, là. C'est une analyse qui montre qu'on a analysé soit des foraminifères ou de la résine, qui, elle, est très ancienne. Mais on n'a aucune idée d'où ça vient, ça. Et ça m'a rappelé, quand je regardais ça, ça m'a rappelé, dans les années 90, au début des années 90, il y a eu une histoire qu'on a appelée l'autopsie de l'extraterrestre. C'est un film qui montrait supposément l'autopsie d'un extraterrestre à Roswell. C'est un canular qui avait été monté par un producteur de films britannique qui s'appelle Raymond Santilli. Et Santilli disait partout qu'il avait fait analyser son film et que son film datait de 1947, donc l'année de l'incident de Roswell. Moi, j'ai réussi à retrouver le type chez Kodak en Angleterre qui avait fait l'analyse du film.
Okay.
Et ce qu'il m'a répondu, il dit non, non. Il dit, moi, là, je l'ai jamais vu, le film de l'autopsie. Raymond Santilli est venu dans nos laboratoires, il m'a amené une amorce de film. Tu sais, le petit bout de plastique, là, le petit bout de pellicule, ouais, qu'on accroche après la bobine du film, là. Tu sais, quand on veut, dans les ans, quand on voulait présenter ça, là, on parle d'un film, là, 16 mm, là, sur une bobine.
Ouais.
Le petit bout, là, de plastique, la petite amorce qu'on accroche après le support de métal pour enrouler le film. Puis il dit, moi, la seule chose que Raymond Santilli m'a amené, c'est une amorce sur laquelle il n'y avait aucune image. Donc, j'ai regardé cette amorce. Et après d'après le codage qui était sur l'amorce, l'amorce datait d'un film de 1947. Mais moi, il dit, le bout de film que j'ai regardé, il n'y avait pas d'image là-dessus. Là. Que Raymond Santilli dise que ça venait du film de l'autopsie ou d'un film de Charlie Chaplin ou de n'importe quoi, j'en ai rien à cirer, je veux dire. C'est Raymond Santilli qui prétend que ça vient du film de l'autopsie. Et ici, on est exactement dans la même figure, c'est-à-dire qu'on a Stephen Greer qui nous présente une analyse, acceptons que ce soit une vraie analyse, une vraie datation carbone 14, et il nous dit que ça provient de la bougasphère. Mais le rapport dit pas ça. Le rapport dit qu'il a analysé simplement des foraminifères puis de la résine. Qui plus est, il y a quelqu'un qui a réussi à retrouver le scientifique en question, parce que sur le rapport, on a un nom d'un laborantin qui a fait l'analyse, et il s'appelle Alexander Cherkinsky. Donc, il y a quelqu'un qui a réussi à rejoindre, c'est Alexander Cherkinsky, pour savoir s'il avait fait cette analyse-là. Puis lui, il dit, ben là, écoutez, monsieur, et je te dis ce qu'il a dit, là. Le type répond, il dit, ben là, écoutez, nous, on est un laboratoire qui fait pour du public des analyses au carbone 14. Donc, les gens nous envoient des échantillons, nous, et contre rémunération, hein, ils paient pour ça.
Oui.
Donc, ils paient pour faire une datation au carbone 14. Il dit, nous, on ne se pose pas la question d'où vient cette analyse. L'objet ou l'échantillon, on reçoit l'échantillon. Ça peut être du caca de dinosaure ou n'importe quoi. Là. On reçoit l'échantillon, on fait une analyse au carbone 14 et on envoie le rapport d'analyse, point barre. Donc, il dit, moi, et ce fameux Alexander Cherkinsky dit, quand on lui a posé la question de la bougosphère, il n'avait jamais entendu parler de ça. Il dit, moi, j'ai aucune idée de quoi vous me parlez. Et évidemment, comme ils ont des centaines de clients, ils ne se rappellent pas une analyse en particulier. Il dit, bah,
Il dit, on a reçu un rapport d'analyse. Probablement que des gens ici dans le laboratoire l'ont reçu, ils ont fait l'analyse, puis ils l'ont retourné. Maintenant, ce que fait de Stephen Greer de cette analyse-là en disant ça vient de la sphère de Bouga ou c'est ici ou c'est ça, et la façon un peu malhonnête qu'il a de prétendre que la sphère a 12 500 ans, alors qu'en réalité, il s'agit plutôt d'une analyse au carbone 14 sur de la résine et des foraminifères et non pas sur la structure de la sphère, c'est tout à fait malhonnête. Donc, essentiellement, sur la foi de ça, je dis, restons prudents et attendons la véritable littérature scientifique parce que ce que l'on nous présente, c'est de la merde. Soyons pas peur des mots, là. Tu sais, je veux dire, c'est du grand n'importe quoi. J'ai l'impression de revivre pour la énième fois ces grandes fraudes et ces grandes arnaques qui touchent le domaine des ovnis. Là, c'est la bougosphère. Il y a 2 ans, c'était les momies extraterrestres de Nazca. Il y a 10 ans, c'était le film de l'autopsie de l'extraterrestre. Et avant ça, on avait les diapositives de Roswell. Le milieu des ovnis, c'est un terreau fertile aux arnaques, aux fraudes de tout acabit. Et ça, ben, à mon avis, c'en est exactement le modèle parfait. Parce que s'il y avait le moindrement un fondement à cette histoire-là, et je pense que c'est le bon sens votre soi, tu trouves un objet de nature extraterrestre ou un objet dont tu ignores la provenance, ben, la première chose, c'est que tu vas le faire analyser par différents laboratoires et les scientifiques vont étudier l'objet pour essayer de déterminer la nature de l'objet, quelle est la composition des matériaux, s'il s'agit d'un métal, c'est quoi l'isotope des métaux, parce que des gens diront, ouais, mais tu sais, tu peux pas le savoir, de l'aluminium sur Terre ou de l'aluminium sur Mars ou de l'aluminium sur une autre planète, on pourra pas déterminer. Ouais. Ouais, mais c'est faux. En réalité, il y a à l'intérieur de la structure de cette matière-là, il y a les isotopes, et les isotopes varient même sur Terre, dépendamment des matériaux. C'est comme ça qu'on sait que quand on analyse un métal, on peut dire, ben voilà, cet aluminium-là, on peut dire qu'il vient quelque part là, du bassin de la Méditerranée, parce que les isotopes varient. Hein, de l'aluminium qui vient, par exemple, de mines au Québec, ou de l'aluminium qui vient d'une mine au Brésil, n'aura pas la même exactement les mêmes isotopes. Donc, on va pouvoir déterminer la provenance de ces métaux-là. Et tu comprends donc que si on avait un métal qui provenait d'une autre planète, ben forcément, on aurait une signature isotopique qui serait différente et on pourrait déterminer sa nature exotique. Donc, il y a des façons de faire ça. Et en science, ben, il y a une façon de faire ça aussi. Donc, à partir du moment où c'est toujours mon beau-frère qui a analysé ça dans son garage, ou quand on... Et méfiez-vous aussi des pronoms impersonnels, hein, c'est des scientifiques dans des universités. C'est qui ces scientifiques-là? Ouais. C'est qui ces universités-là? On peut-tu les voir? On peut-tu les entendre? Quand on ne nous cite pas ça ou on reste trop vague sur les sources, les scientifiques prétendent que, ben oui, les scientifiques prétendent n'importe quoi. Si tu n'as pas de nom à donner, on peut dire n'importe quoi. Donc, la bougosphère, pour l'instant, pour moi, je la classe dans la catégorie des fraudes et jusqu'à maintenant, je pense qu'à peu près 10 drapeaux, si les gens nous écoutent, et qui sont intéressés par le sujet, je pense qu'il y a déjà 10 drapeaux qui se sont levés. Là, hein? Donc, avant d'adhérer à ça, bon, et c'est bien triste à dire, mais je pense que c'est pas pour demain que cette preuve-là sera apportée. Moi. Non, restons patients, attendons s'il y a éventuellement une littérature scientifique qui soit publiée dans des périodiques sérieux. Mais là, pour l'instant, on n'a rien de ça. On a simplement des histoires un peu louches avec des rapports un peu nébuleux. Et même quand on regarde ces rapports d'analyse, même le scientifique qui aurait fait l'analyse, lui-même vient commenter en disant « J'ai aucune idée de cette sphère-là, ce que c'est. » Puis si notre laboratoire a fait l'analyse, ce n'est qu'un des une analyse sur des milliers d'autres et des gens ont payé pour obtenir l'analyse puis aucun moyen de savoir si ça venait réellement de la sphère, si ce n'est le discours qu'entretient Stephen Greer. Mais quand on regarde la feuille de route du même Stephen Greer, ben, je pense qu'il y a des bonnes raisons d'avoir des doutes.
Mais les images sont quand même fascinantes. T'sais, je regardais.
Ah,
ça pique la curiosité. Là.
Tout à fait. Tout à fait.
Oui, et j'aurais pas le temps, mais bon, ouais, tu sais, les images. Les images, je voulais. Il y avait un autre sujet qui était est-ce que l'IA a tué le paranormal? Ben, effectivement, avec l'IA, on peut faire beaucoup de choses, faire beaucoup de vidéos qui montrent des ovnis. Donc, c'est toujours très, très mystique. Puis bon, fait qu'il faut se méfier de tout ça. Pour l'instant, c'est attendons la littérature. C'est parce qu'il faut avoir une amorce sérieuse, et c'est ça qu'on n'a pas. Je veux dire, est-ce qu'on a accès à la sphère? Si la sphère, elle est réellement aussi exotique, on devrait permettre à tous les scientifiques du monde entier d'y avoir accès, de pouvoir en prendre des échantillons, de la calibrer, de l'étudier. Pas dans un sous-sol chez Marcel ou le cousin de Marcel. Il y a quelque chose qui cloche. Là.
Tout à fait. Encore une fois, fort intéressant. On a encore appris beaucoup de choses et on va continuer de se méfier. Ben oui, c'est toujours super intéressant, Christian Page. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va se retrouver vendredi prochain pour une autre édition des Radio X-Files.
Absolument. Fait que sur ce, donc, bon week-end et soyez vigilants.
Pareillement, bon week-end à toi aussi et bonne fin de soirée.
Ça marche. Salut.
Bye, Christian Page. Donc, c'était les Radio X-Files sur les ondes de choix 98.1 Radio X. Au retour de la pause, la sexploratrice s'installe.
Radio X-Files.
Avec Christian Page.
Radio X. L'Extra. L'Extra. 80. L'Extra. 2000.
Avec Pee-wee. Samedi et dimanche, 16h.
Radio X.
Présenté par Studio de danse Hypnose. Enfants de 3 ans, ados, adultes, tout le monde peut danser. Hip-hop, break, ballet ou reggaeton, on en a pour tous les goûts. Studio de danse Hypnose sur Facebook ou Instagram.
Capsule.
Radio X.
Du 5 au 8 février, venez rencontrer le maître constructeur Saint-Jacques à l'Expo Habitat de Québec. Sur place, une super promotion et une équipe authentique vous attendent. Le maître constructeur Saint-Jacques, une expérience de la maison usinée vraiment différente depuis 1989. Radio X est fier de souligner les 40 ans de Napper. Depuis 1985, cette famille Beauceronne illumine et réchauffe nos foyers depuis 4 décennies. Un succès bâti sur un service légendaire. Bon anniversaire à toute l'équipe de Napper de la part de Radio X. Vente de fermeture chez Céramique Décor, tout doit sortir jusqu'à 80% de rabais sur céramique, robinetterie et accessoires. Des économies majeures, des quantités limitées. Vente de fermeture Céramique Décor, 3e avenue Ouest. Cette Saint-Valentin, laissez parler votre cœur. À la bijouterie suisse, pour chaque 100$ d'achat avant taxe, une rose vous attend. Un bijou pour elle, pour lui ou pour vous. 2539 A Boulevard Sainte-Anne, Québec, bsuisse.com.
Expo Habitat Québec, ça s'en vient. Et cette année, on vous en met plein la vue. Avec plus de 10 cuisines modèles, une cour arrière de rêve, une remise container et plus encore. Ne manquez pas nos habitations à visiter. Une maison modulaire, une mini-maison polyvalente ainsi que la maison Enfant-Soleil signé Bonneville, que vous pourrez visiter en exclusivité à Québec. Courez la chance de la remporter en participant au tirage. Expo Habitat Québec, c'est 40 ans d'inspiration en habitation. Du 5 au 8 février à Expo Cité.
Bière et Frites vous offre pour la Poutine Week du 1er au 7 février, la grosse poutine avec saucisse et avec la pinte de bière de votre choix pour 13,99 $. Vous avez bien entendu. Une grosse poutine avec saucisse et une pinte de Bud Light 50, Archibald, Stella Artois ou Au Garden pour seulement 13,99 $. C'est imbattable, comme toujours, chez Bière et Frites. Bière et Frites, prix imbattable, goût imbattable, même pas proche. 550 rue Marais, 44 Président Kennedy à Lévis.
Salut, c'est JC. Je vous l'ai déjà dit, la référence en portes et fenêtres au Québec, c'est Abritech. Une entreprise d'ici, des produits qui durent puis des gens vrais. Abritech, c'est la qualité, garantie et le service aussi. Abritech, une valeur sûre. Trouvez votre détaillant au abritech.ca.
Cette semaine, écoute le Space Cast. Tu pourrais gagner un laissez-passer familial pour assister au tournoi international de hockey Pee-wee qui se déroulera du 11 au 22 février. Chaque jour, une nouvelle question sur l'histoire, les moments marquants et les figures emblématiques du tournoi international de hockey Pee-wee Québec te sera posée. Du 11 au 22 février, au Centre Vidéotron et au pavillon Guy Lafleur, avec des équipes de partout dans le monde pour vivre une expérience inoubliable. Visite le tournoi pee-wee.qc.ca pour acheter tes billets.
Sanivac est maintenant dans ta région, avec le plus grand inventaire de toilettes au Québec. De la petite toilette portative en plastique jusqu'à nos grandes roulottes sanitaires prestigieuses flambant neuves, nous avons ce qu'il te faut. Sanivac t'offre du confort partout, peu importe la météo. Chauffage, air climatisé, les toilettes les plus confortables, là où tu t'y attends le moins. Propre, fiable, livraison en 24 heures et service d'urgence. Que ce soit sur un chantier ou pour un événement, choisis Sanivac. Inventaire, service, qualité.
Ça y est, plus que 6 semaines avant le printemps, Itrévi procède à sa super vente de déstockage d'inventaire. Et pour l'occasion, tout doit sortir. Des tonnes de produits à liquider. Piscine creusée, piscine hors terre, spa, à rabais de déstockage exceptionnel. Modèle démonstrateur, surplus d'inventaire 2025. Plus de 15 millions à liquider, jusqu'à 60% sur le mobilier de jardin et les pavillons adoring et du financement VIP offert sur place. Ne manquez surtout pas la super vente de déstockage simultanément dans tous les super magasins. Itrévi.
Bonjour. C'est moi ton sommeil, ici sur invitation de Dormez-vous. Bon là, c'est la meilleure partie de l'année, c'est la haute saison du sommeil qui commence. T'as le goût d'une sieste à l'heure du lunch, une autre sieste après le souper, un petit somme d'après-sieste. Hey, fais-toi plaisir. Pourquoi tu penses qu'il fait noir plus tôt à ce temps-ci de l'année? Allez, va faire dodo.
Pendant l'événement Blotti au lit, obtenez jusqu'à 20% de rabais sur les matelas, seulement chez Dormez-vous, pour un temps limité. Des conditions s'appliquent.
Pendant que vous fêtez les 2 ans de Charlotte avec toute votre famille, l'AMF veille. Pendant que vous pédalez comme un forcené sur votre vélo stationnaire pour retrouver votre forme d'antan, l'AMF veille. Pendant que vous regardez en rafale votre série préférée, l'AMF veille sur vos dépôts en les protégeant au cas où une institution financière provinciale ferait faillite. Continuez de profiter de la vie. L'AMF veille. Pour en savoir plus, consultez l'autorite.qc.ca. Un message de l'Autorité des marchés financiers.
Les Dames de pique, c'est une ambiance qui fait parler et revenir. Tu ne veux pas passer ta Saint-Valentin seule ou tu veux t'offrir une sortie qui fait monter la tension? Les Dames de pique, on est merveilleuses et à l'écoute de tes besoins. Passe nous voir, on prend soin de toi. Sur le chemin Craig, à Saint-Nicolas.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez